OK, on va commencer notre 34e leçon de notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Ce matin, nous allons regarder « Le calvinisme, est-ce nouveau ?» Alors, dans notre leçon précédente, on avait examiné la question « Le calvinisme, qu'est-ce que c'est ?» Une autre question que l'on pourrait se poser serait « Est-ce nouveau ?» En d'autres mots, quand le calvinisme est-il apparu dans l'histoire ? Était-ce avec le théologien Jean Calvin ? Ou si ces doctrines sont clairement établies dans les Saintes Écritures elles-mêmes, c'est qu'il est convenu d'appeler les doctrines de la grâce, ou calvinisme, a toujours été au centre d'une controverse théologique. La Bible nous avertit que la vérité sera toujours contestée. Alors, on va regarder différents versets pour nous montrer, dans le fond, que le Seigneur nous avait vraiment averti que ce serait le cas. Dans Luc 18, au verset 8, le Seigneur nous dit « Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors, ce que ça laisse sous-entendre, c'est que la foi va diminuer, plus on va se rapprocher de son retour. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, dans les versets 3 et 4, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans Galates, chapitre 1, les versets 6 à 8, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Apocalypse 22, versets 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Éphésiens 6, verset 11 à 17. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, Jude, chapitre 1, verset 3 et 4, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 et 26. Alors, ça, il parle dans le contexte du pasteur. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, c'est beaucoup de versets, mais dans le fond, les versets ont pour but de nous donner certains principes. Alors, les versets nous enseignent les faits suivants. Christ l'avait prédit qu'on se devrait de se battre pour garder la vérité. Alors, la vérité, le premier principe qu'on apprend, c'est que la vérité sera attaquée par des faux docteurs et par le moyen de faux enseignements qu'on a vus dans les différents textes comme tordre, ajouter ou enlever. Le deuxième principe qu'on apprend à partir de tous ces versets-là, c'est que la vérité sera abandonnée. Parce qu'on parle dans certains versets que les professants, donc les personnes qui ont juste une adhésion intellectuelle à la vérité, vont apostasier, c'est-à-dire ils vont abandonner. Ils vont abandonner la foi à la fin. Troisième principe qu'on apprend avec tous ces versets-là, c'est que la vérité sera toujours défendue par un reste, qui sera fidèle aux Écritures, qui aura le courage de s'auto-examiner pour voir s'ils sont dans la vérité, comme ça nous disait dans 2 Corinthiens 10, de s'examiner pour savoir si on est dans la vérité, et ce reste aussi rejettera les fausses doctrines et utiliseront les armes spirituelles données par le Seigneur, comme c'est décrit dans Éphésiens 6, et aussi contribueront à redresser les adversaires avec douceur. Alors, le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous montrer est-ce que le calvinisme, c'est quelque chose qui est né avec Calvin ou si c'est quelque chose qui a toujours existé de toute époque. Alors, c'est ce qu'on va regarder dans différentes phases. Alors, le but de la leçon, c'est de montrer que c'est des doctrines qui sont enracinées dans les Écritures, mais qui, au cours de l'histoire, ont toujours existé pour enlever de notre idée que c'est quelque chose qui c'est juste parce qu'à cause du nom que ça porte. Je pense que le meilleur nom, c'est... ils disent « les doctrines de la grâce », je me souviens d'avoir souvent lu dans des livres, ils disent « on ne devrait pas appeler ça « les doctrines de la grâce », on devrait appeler ça « la doctrine de la grâce » qui a différents aspects, comme les cinq points du calvinisme. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est que c'est vrai, c'est véritablement très âgé, ça fait longtemps que ça existe. Alors, ça existait même avant Augustin, mais Augustin, on pourrait dire, c'est un phare avant la nuit. Pourquoi un phare avant la nuit? Parce qu'on sait qu'éventuellement, le catholicisme va prendre de plus en plus de pouvoir et ils vont la diluer à un tel point qu'elle n'existera pratiquement plus. Alors, Augustin d'Hippone, alors il a vécu entre 354 et 430, alors il était vraiment proche du début, là. Il est né en Afrique du Nord, d'un père païen et d'une mère chrétienne, qui s'appelait Monique. Alors, il a mené une vie dissipée jusqu'à sa conversion en 387 à l'âge de 33 ans. Il devint évêque d'Hippone en 395. Il a beaucoup écrit et son œuvre théologique a eu une influence énorme. Il fut au centre d'une controverse contre le moine Pélage dans laquelle il soutint principalement les idées bibliques suivantes. La nature humaine est corrompue. Le salut dépend entièrement de la grâce souveraine de Dieu. Les hommes sont de toute éternité prédestinés au salut ou à la condamnation éternelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les idées des deux hommes côte à côte et on va voir que, dans le fond, les idées de Pélage continuent de se répandre encore de nos jours aujourd'hui. Alors, j'ai fait un tableau comparatif des deux systèmes théologiques, à la fois de Pélage et d'Augustin. Alors, dans une colonne, on a Pélage. Dans l'autre colonne à droite, on a Augustin. Alors, on va regarder ce qu'ils pensent, les deux hommes. Et il ne faut pas penser que les deux hommes n'ont pas eu une influence énorme sur le développement de la théologie au cours de toute l'histoire. Alors, c'est pas d'hier que l'arminianisme et des fausses idées sur le Seigneur, sur la grâce et sur Dieu et sur le salut. Alors, on va regarder les deux. Alors, si on regarde le système de Pélage, son système pourrait être défini en disant que c'est une négation de la dépravation totale de l'homme et une affirmation de sa capacité à se sauver lui-même par ses propres œuvres et par ses propres efforts. Alors, il dit que l'aide extérieure de la grâce est une aide, mais non pas absolument nécessaire. Si on regarde de l'autre côté, la définition du système augustinien. Alors, la nature humaine est entièrement corrompue par le péché. L'homme étant mort spirituellement ne peut ni ne veut quoi que ce soit pour son salut. Le salut est entièrement une grâce divine. Les hommes sont prédestinés au salut ou à la condamnation. Alors, quand on regarde, si quelqu'un prendrait la peine de regarder l'ensemble de ce que les deux hommes ont écrit, on verrait que le système de Pélage est un système théologique centré sur l'homme, anthropocentrique, tandis que le système d'Augustin est vraiment un système de théologie théocentrique ou centré sur Dieu. La place que tient la raison humaine dans les deux systèmes, dans Pélage, la raison humaine prédomine sur les Saintes Écritures. Autrement dit, la manière de raisonner, c'est plus fort que les Écritures. Tandis que si on regarde Augustin, lui, la raison humaine, non pas qu'on ne doit pas l'utiliser, mais elle est toujours assujettie, elle se doit d'être assujettie aux Saintes Écritures. On continue le tableau comparatif. Alors, quand Pélage parle du rôle d'Adam, le premier homme, alors, pour Pélage, Adam, c'est un individu dont le péché n'a pas affecté la race humaine, mais seulement lui-même. Et aussi, il dit que pour lui, Adam était seulement un mauvais exemple. Il dit aussi que par Adam n'est pas entré le péché originel dans l'humanité. Et il dit aussi qu'il n'y a pas de culpabilité qui soit héréditaire. Et il mentionne aussi que certains hommes furent sans péché. Et il mentionne Abel, Abraham, Isaac et la Vierge Marie. Si on prend le même rôle d'Adam pour Augustin, alors pour Augustin, Adam est un individu qui a transmis sa nature pécheresse à la race humaine par sa chute. Romains 5, versets 15 à 19. Ensuite, il apporta aux hommes la mort physique et spirituelle. Là, je vous ai mis toute une série de versets. Genèse 3, versets 1 à 7, Romains 5, 12, Colossiens 2, 13. Et il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour démontrer que, dans le fond, la position d'Augustin était vraiment scripturaire. Troisième chose d'Augustin, il affirme que le péché a été introduit, le péché originel a été introduit par Adam. Et il affirme également que la culpabilité est héréditaire, donc tout être humain, par hérédité, hérite d'une nature pécheresse. Et dernière chose, quant au rôle d'Adam, il dit que tous les hommes sont pécheurs, et là, je vous ai mis toute une série de versets. Alors, pour ceux qui écoutent par Internet, bien, vous pourrez aller voir, télécharger tout cela et regarder les versets un par un. Il y en a beaucoup. Alors, quand on prend le tableau comparatif de la condition présente de l'homme, alors, à sa naissance, selon Pélage, l'homme est comme Adam avant la chute, donc pur, innocent, libre d'obéir à Dieu. Et aussi, selon Pélage, l'homme peut être sauvé par l'observation des 10 commandements de Dieu, le décalogue. Et il affirme également que la volonté de l'homme peut être tournée vers le bien sans l'intervention de Dieu. Et il dit également que l'homme est bon jusqu'à ce qu'il pêche. Tandis que quand on regarde du côté d'Augustin, la condition présente de l'homme selon lui, à sa naissance, l'homme est déjà pécheur et esclave, spirituellement mort et incapable d'obéir à Dieu. Je vous ai mis toute une série de versets. Ensuite, Augustin défend la position que l'homme ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Et troisième chose, il dit que la volonté de l'homme est soumise au diable. avec toute une série de versets, et il dit que l'homme est mauvais dès sa naissance. Alors, faut vraiment comprendre que beaucoup d'erreurs modernes viennent de Pélage ou d'une modification quelque part de Pélage. Et on va regarder la dernière, dans la page 8, la liberté de l'homme et de la grâce, les deux thèmes. Alors, pour Pélage, la liberté de l'homme, il dit que l'homme peut également et à tout moment choisir entre le bien et le mal. Tandis que selon Augustin, l'homme est esclave du péché, enfant du diable, et sous son contrôle et incapable de choisir le bien. Ça, c'est leurs deux conceptions de la liberté de l'homme. Maintenant, la grâce, selon Pélage. Pélage dit que la grâce est une aide extérieure, mais qu'elle n'est pas absolument nécessaire. Et il dit également que la grâce est donnée à tous les hommes. Et il dit finalement que le salut peut s'obtenir par les œuvres et les efforts de l'homme. La grâce, selon Augustin, il dit que sans la grâce, qui comprend la régénération, la foi et la repentance, l'homme n'aurait pu obtenir le salut. Avec toute une série de versets, il dit également que le salut est donné seulement aux élus. Donc, on a différents versets qui parlent de que le salut a été donné aux brebis, ses brebis, en parlant de Christ, son peuple, encore en parlant de Christ, et son Église, encore une fois, en parlant de Christ. Et la dernière chose que Augustin défend la position, c'est que le salut n'est point par les œuvres. Quand on regarde le dernier tableau qu'on a, qui compare les deux systèmes, c'est l'avenir du système. Autrement dit, l'avenir immédiat. À l'époque, tout ça, ça a soulevé une énorme controverse et ils ont réglé les positions des deux par des conciles. Alors, l'avenir immédiat de Pélage au moment qu'il a écrit ça, c'est que éventuellement, ça a été condamné comme une hérésie à deux conciles, celui de Carthage en 418 et celui d'Éphèse en 431. Si on regarde l'avenir immédiat du système d'Augustin, ça semblait prometteur sur papier, mais ça a été vite dilué et abandonné progressivement. L'avenir à long terme maintenant des deux systèmes, quand on regarde l'avenir du système de Pélage, alors on peut dire que l'hérésie est très vivace. Le système de Pélage a gardé une grande partie de ses erreurs dans le développement ultérieur du semi-pélagianisme et de l'arminianisme. Autrement dit, au cours de l'histoire, beaucoup d'idées de Pélage ont été développées, mais ce qu'on a appelé le semi-pélagianisme, alors on a pris certaines affaires qui étaient vraiment des erreurs vraiment trop importantes pour qu'on puisse les nier. Ils ont enlevé, mais ils ont gardé encore beaucoup de stock, autrement dit, de Pélage. Et éventuellement, l'arminianisme, ça tire ses racines de son système. Alors, on voit qu'avec le temps, l'avenir du pélagianisme a été bon parce que ça s'est développé et ça a amené tout simplement un développement de fausses doctrines, mais avec des modifications. Tandis que si on regarde Augustin, l'avenir à long terme, le calvinisme sera toujours défendu par un nombre de plus en plus petit, mais qui demeurera fidèle jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. Alors, on voit que le système ne va pas nécessairement prendre des forces, quoique dans certaines parties actuellement aux États-Unis, il semble qu'il y ait un regain, surtout dans le sud des États-Unis, du système calviniste. Mais en général, dans le monde entier, je dirais que l'avenir à long terme du calvinisme pur, disons, là, va être défendu par un nombre de plus en plus petit d'êtres humains, de croyants. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est qu'il va y avoir un reste. Donc, le flambeau durant la nuit, c'est qu'on est en train de dire que du 6e au 14e siècle, il y a tout ça, le système du calvinisme a commencé à vraiment s'éroder sérieusement. C'est ça qu'on l'appelle un reste, qu'il y a toujours eu des hommes, même durant cette période de ténèbres-là, qui ont gardé, développé, défendu à toute ou même au prix de leur propre vie, le système du calvinisme. Alors, le calvinisme, ou les doctrines de la grâce, a expérimenté de très grandes difficultés durant la période du Moyen Âge. qui s'étend du 6e au 14e siècle. C'est durant cette période que se développa graduellement le catholicisme. L'Église romaine dominera fortement cette période qui est caractérisée par la décadence morale, le matérialisme, le mariage avec l'État. Ce qu'on veut dire par le mariage avec l'État, c'est qu'ils vont laisser de plus en plus de place à l'État et ils vont essayer de dominer l'État et dans beaucoup de cas, ils vont réussir à dominer l'État, les États en général. Et les persécutions sanglantes, alors quand on est justement en train de faire l'étude de l'histoire de l'Église, on sait qu'il y a eu beaucoup de persécutions pour tous les véritables chrétiens. C'était aussi une période où il y avait beaucoup d'exploitation du peuple. Alors Rome cherchait à fouiller dans les poches de tout le monde. Et la multiplication des enseignements et des pratiques. Alors si j'ai une charte à la maison, il faudrait bien que je fasse laminer ça. Ça nous montre les dates et les différentes fausses doctrines que l'Église catholique a instaurées dans l'Église au cours de son développement. Ça dit telle année, ils ont instauré telle affaire. Telle autre année, ils ont instauré telle affaire. C'est un super de beau tableau. Intéressant à se rendre compte, juste d'un coup d'œil, là, qu'on voit l'ensemble des choses qu'ils ont introduites. Alors, ils ont bien sûr introduit beaucoup d'enseignements et aussi des pratiques. Donc, parmi les enseignements, le salut par les œuvres et les pratiques, on sait que les indulgences, ça a été une des étincelles qui a fait allumer, autrement dit, la réforme. Ça a contribué. Pas juste ça, mais entre autres. Et maintenant aussi l'Inquisition. Alors, cependant, durant cette nuit sombre, des enfants de Dieu transmirent fidèlement le flambeau du véritable Évangile à un très grand prix. Persécution, emprisonnement, torture, méchanceté innommable et incessante. Plusieurs chrétiens s'organisèrent et dénoncèrent les innombrables abus de l'Église catholique. Ils cherchèrent par tous les moyens à maintenir la pureté de la doctrine, à vivre une vie sainte et à prêcher la vérité. On estime à plus de 50 millions le nombre de chrétiens martyrs de cette période. Et j'ai tiré ça du livre de J.M. Carroll, Le Sentier du sang, la page 59. Alors, s'il y en a qui ont fait des études pour essayer de regarder à toutes les époques combien de personnes qui ont été martyrisées à cause de la foi, et lui estime à 50 millions. C'est énorme. C'est énorme. Mais, durant cette période-là, on va voir que j'ai mis comme trois périodes que du 6e au 10e siècle, il y a quand même eu un paquet de monde qui ont défendu la doctrine de la grâce ou le calvinisme à travers l'histoire. Du 6e au 10e, alors j'ai parlé des anabaptistes, beaucoup d'entre eux furent martyrs du 4e au 16e siècle. Ce qui est dangereux en parlant des anabaptistes, c'est qu'il y a eu une grande variété parmi eux. Ça n'a pas tout été pareil. Il y en a qui ont beaucoup abusé et qui ont fait des choses vraiment condamnables. Mais à l'intérieur de ce grand mouvement-là, on ne peut pas dire les anabaptistes dans un grand coup d'éclat, dire ils étaient tous bons doctrinalement ou ils étaient tous mauvais doctrinalement. Il faut vraiment regarder ça, un peu au microscope, regarder chaque groupe, parce que si on juge ça dans l'ensemble, on fait une erreur monumentale. Il faut vraiment y aller du cas par cas. C'est pas du blanc ou du noir. Il faut regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, il y a eu plusieurs anabaptistes qui ont défendu les doctrines de la grâce et plusieurs d'entre eux ont été martyrs du 4e au 16e siècle. Il y a eu un autre groupe qu'on appelait les patarins. Eux aussi ont payé de leur liberté et de leur sang. Et il y a eu le fameux moine Gottschalk. C'est intéressant de lire son histoire qui a vécu entre 805 et 870. Qui était emprisonné par l'Église catholique pour avoir prêché la prédestination. Ça venait quand même de leur propre milieu, un moine qui parlait de la prédestination. Alors, bien sûr, l'Église catholique l'ont comme enlevé. C'est pour dire, le but de la leçon, c'est vraiment de voir qu'il y a toujours eu des défenseurs, malgré les innombrables difficultés. Du 11e au 13e siècle, alors il y a eu beaucoup de groupes aussi qui ont défendu. Alors, il y a eu les Vaudois. Le professeur A.A. Hodge a déclaré que les Vaudois étaient tous calvinistes. Les Albigeois, Rice, dans son étude, a dit que les Albigeois croyaient aux doctrines maintenant appelées calvinistes. et les Huguenots. Lors du massacre de la Barthélemy, on en a tué au-dessus de 30 000. Alors, les Vaudois, les Albigeois et les Huguenots ont maintenu, défendu une doctrine de la grâce du 11e au 13e siècle. Au 14e siècle, bien là, on est plus dans la période qu'on est en train d'étudier dans l'histoire de l'Église. Donc, Jean Hus, John Wycliffe, qu'on a appelé l'étoile du matin de la Réforme. Alors, cette grande figure de la pré-Réforme était calviniste, selon Lauren Bettner, à la page 367 de son manuel, et Jérôme Savonarole, c'est un Italien. Alors, on voit qu'à l'intérieur de l'Europe, durant la période du 14e siècle, il y a quand même toujours eu des personnes qui ont défendu la doctrine de la grâce. Alors, le troisième point, on regarde maintenant le rôle de la réforme comme telle. Alors, pour ça que j'ai intitulé la réforme, la lumière freine la nuit. Autrement dit, Dieu est intervenu en grâce pour reformer la doctrine chrétienne qui était en train vraiment de se dénaturer au point où il n'était plus la doctrine véritablement chrétienne. Alors, la période du 15e au 19e siècle a été caractérisée par les faits suivants. L'invention de l'imprimerie en 1450, bien sûr, ça l'a énormément contribué à ce que les Écritures se répandent partout en Europe. Maintenant, la traduction et la diffusion des Saintes Écritures, c'est durant cette période-là où il y a eu des hommes qui, au prix de leur vie et au prix d'énormes sacrifices, ont traduit les Écritures dans les langues du peuple, comme Luther en Allemagne et les autres en Angleterre. Et il y a eu aussi, à cette époque-là, d'innombrables dénonciations des abus du catholicisme. Il y a eu aussi, c'est vraiment la réforme, ça a été une étude, ça a été une époque où il y a eu une étude approfondie de la doctrine du salut ou de sotériologie. Alors vraiment, la réforme a vraiment contribué à faire le ménage un peu dans la doctrine du salut à cette époque-là. Et il y a eu aussi, bien entendu, de violentes persécutions des véritables chrétiens par l'Église catholique. Alors, si on regarde à l'époque de la réforme, les réformateurs eux-mêmes étaient calvinistes. Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, John Knox, Bullinger, Bucer. Alors, tous ces gens-là, on pourrait allonger la liste, là. Dans le fond, c'est pour montrer qu'à l'époque de la réforme, la plupart, un grand nombre de réformateurs étaient des calvinistes. Maintenant, si on regarde au cours de, quand on parle de, là, on parle de l'histoire au point de vue entre le 15e et le 19e. Maintenant, il y a eu beaucoup de grands prédicateurs connus internationalement qui ont été des calvinistes. Charles Spurgeon, qui ne connaît pas Charles Spurgeon? George Whitefield, Jonathan Edwards, c'est aux États-Unis, George Miller en Angleterre et en Allemagne, John Bunyan en Angleterre, qui a écrit « Le voyage du pèlerin ». Alors, tous ces gens-là, et on pourra encore une fois allonger la liste, alors, il y a eu des grands prédicateurs, les réformateurs eux-mêmes, les grands prédicateurs. Maintenant, il y a eu de très grands théologiens qui ont été des calvinistes. Là, j'en nomme quelques-uns, mais on aurait pu allonger la liste encore. John Gill, Emory Bancroft, Charles Hodge, Augustus Toplady, John Owen, Abraham Kuyper, Benjamin Warfield, et on pourrait encore une fois en nommer encore beaucoup d'autres. Alors, il y a eu des réformateurs, il y a eu des prédicateurs, il y a eu des théologiens. Maintenant, il y a eu aussi des missionnaires, de très grands missionnaires qui furent calvinistes. William Carey, aux Indes, David Livingstone et Robert Moffat en Afrique, Robert Morrison en Chine, Peyton dans les mers du Sud, Jonathan Edwards aux États-Unis, David Brenner aux États-Unis, George Whitefield en Europe et aux États-Unis. Maintenant, non seulement ça, pour démontrer que ça a toujours existé au cours des siècles, entre le 15e et le 19e, mais si quelqu'un fait une étude des très grandes confessions de foi, des grandes confessions de foi des grandes dénominations, alors on a les 39 articles des Anglicans, 39 articles, après ça des Heidelberg Confessions, après ça, ça c'était pour les protestants d'Allemagne et de Hollande, les Canons of Dort en 1619, ça c'était les presbytériens en Hollande et dans le monde entier. Il y a eu la fameuse Westminster Confession of Faith en 1646, qui est surtout des presbytériens du monde entier. Il y a la 1689 London Confession of Faith, c'est la confession de foi que nous, on a, et des baptistes d'Angleterre. Il y a aussi la Philadelphia Confession de 1742, des baptistes des États-Unis, et la New Hampshire Confession de 1833, des baptistes aussi des États-Unis. Alors, quand on regarde ça, au cours de toute l'histoire, les grandes dénominations ont toujours eu des concessions de foi qui étaient calvinistes. Je pense que ça parle fort. Et le quatrième point qu'on va regarder, c'est qu'on est rendu à l'époque de l'apostasie. Donc, quand on appelle ça l'aube de la grande nuit, c'est qu'on est peut-être sur le bord de réentrer dans une période de grande noirceur. Alors, plusieurs facteurs ont contribué au développement de l'apostasie, donc l'abandon de la foi. Et quels sont ces facteurs? Le premier, le modernisme, donc qui a amené une confiance aveugle aux sciences et à la théorie de l'évolution. Le deuxième facteur, le libéralisme. Donc, le libéralisme, ça se caractérise surtout par les doutes sur la véracité de la Bible et des miracles. L'écuménisme, troisième facteur, donc l'abandon de la doctrine autour d'une fausse unité. Alors, on veut remettre tous les chrétiens ensemble, qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais pas au profit de la vérité. Alors, l'unité sans la vérité, c'est pas bon. Et quatrième facteur, l'absence de séparation du monde et des fausses doctrines. Donc, si on laisse le monde rentrer dans les églises sans prêcher contre et qu'on ne fait pas non plus, on ne rejette pas les fausses doctrines, bien sûr, ça contribue au développement de l'apostasie. Ce qu'on appelle l'avancement de l'évangile social, autrement dit, au cours de l'histoire, il y a eu une période où on a moins mis l'accent sur la prédication de la parole du calvinisme comme tel pour plutôt vouloir aider les gens matériellement, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais il y a eu comme un glissement progressif qui s'est fait. Et ce qu'on appelle aussi l'inclusivisme missionnaire, c'est un autre facteur. Autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle par l'inclusivisme missionnaire? C'est le fait que les sociétés missionnaires exigeaient une certaine croyance de base avant d'accepter. Maintenant, on est rendu que des sociétés missionnaires qui ont tellement abaissé ce qu'on doit croire pour travailler avec eux, que c'est devenu l'inclusiviste, autrement dit, peu importe de quelle dénomination que tu viens, peu importe ta croyance, on te laisse travailler avec nous. Alors ça a été un autre facteur qui a amené le développement de l'apostasie. Et ce qu'on peut appeler aussi le développement à outrance des organisations para-ecclésiastiques. Les organisations para-ecclésiastiques, c'est toutes les organisations qui ont des buts qui, en soi, sont bons, mais qui, quand on les laisse trop se développer, ils finissent par prendre la place de l'Église locale, et bibliquement, c'est supposé être l'Église locale qui s'occupe de ces choses-là. Mais on les a laissés tellement se développer, surtout aux États-Unis, souvent les mouvements commencent aux États-Unis, mais ils s'épandent un peu partout dans le monde. Et il y a eu aussi ce qu'on peut appeler la collaboration ouverte avec des incroyants notoires. On va en parler un peu tantôt dans le Charles Spurgeon, à son époque. Il y a eu le Downgrade Controversy aux États-Unis, en Angleterre. Autrement dit, son Église faisait partie d'un genre d'association. Mais cette association-là avait été reconnue pour laisser entrer des incroyants notoires dans leur milieu et les laisser enseigner. Charles Spurgeon, éventuellement, il les a avertis, il les a écrits maintes et maintes fois pour essayer de dire, ben là, faites le ménage, sinon... Et ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils voulaient défendre la liberté, tout ce que tu voudras. Mais Charles Spurgeon, éventuellement, s'est retiré. Mais Charles Spurgeon, à l'époque, avait une énorme influence en Angleterre. Donc, il y a des gens qui l'ont suivi. Et ça a fait une énorme division en Angleterre. Mais c'était nécessaire, et si on lit la Downgrade Controversy sur Internet, on voit que Spurgeon était affecté par ça à un point où il est devenu malade. Parce que ça l'affectait de voir qu'il contribuait à une division de l'Église, mais la division était nécessaire, elle était essentielle même. Alors ça, c'est une autre chose, quand on laisse rentrer des incroyants, qui enseignent dans les écoles bibliques et qu'on ne fait pas le mélange, bien sûr, tôt ou tard, les incroyants finissent par prendre le dessus et à contrôler l'institution. Et le dernier point, mais non le moindre, le développement du charismatisme. Alors, dans son livre « Our Baptist Calvinist », ou autrement dit en français, ce serait « Est-ce que les baptistes sont calvinistes? » le pasteur et théologien Kenneth Good identifie les sept marches de l'apostasie et identifie également le modèle de l'érosion de la foi et il prend des exemples tirés de l'histoire. Alors, les sept marches et de valeur, j'ai voulu faire le dessin avec des marches, mais je n'ai pas réussi à le faire. Faire ça avec Word, c'est pas évident. Alors. Mais voyez les sept marches comme qui descendent vers en bas. Là. Alors, quand vous avez les sept marches, alors la première, c'est le calvinisme, est remplacé par l'arminianisme évangélique. Alors, il y a beaucoup de mouvements églises qui sont rendus là. Alors, ils ont déjà abandonné le calvinisme, sont rendus ce qu'on pourrait appeler l'arminianisme évangélique. Après ça, il y a une autre marche. C'est l'arminianisme devient à contrôler l'organisation. Soit la dénomination, soit les écoles bibliques, ils viennent qui contrôlent. Troisième marche, c'est que le calvinisme devient ignoré, ridiculisé ou éliminé. Quatrième marche, l'organisation adoucit ses positions sur la séparation. Cinquième marche, le libéralisme théologique envahit le corps. Sixième marche, le libéralisme théologique en vient à contrôler le corps. Et la septième marche, l'arminianisme évangélique est expulsé du corps. Même ce qu'on considérait comme bon début finit par être... Alors, il faut voir vraiment, on pourrait presque prendre toutes les grandes dénominations, toutes les grandes églises et regarder où ils sont rendus dans tout ça. Alors, ce qu'il appelle aussi le modèle de l'érosion de la foi. Alors, il dit que un corps, une église, une dénomination ou une école, bon, le premier point, elle est calviniste. Le calvinisme est intégral, donc dans ces cinq points. Et pourquoi elle s'érode? Parce qu'elle devient éventuellement, le calvinisme va se diluer et va devenir quatre points ou moins. Et il y a encore, là, j'ai réussi à me trouver des petites flèches pour montrer que ça s'en va toujours vers en bas. Le calvinisme s'estompe et devient l'arminianisme. Et ensuite, quatrième point, le calvinisme se dirige vers l'incroyance. Et cinquième point, l'apostasie s'installe progressivement. Très intéressant, M. Good, il a fait un job extraordinaire. C'est sûr qu'on n'a pas tout le livre, mais on a les principales idées. Maintenant, des modèles tirés de l'histoire, autrement dit, il veut nous montrer que c'est dangereux de ne pas maintenir nos positions parce qu'il y a eu des modèles au cours de l'histoire qui nous ont démontré que ces modèles-là sont vrais, les sept marches vers l'apostasie, et aussi le modèle de l'érosion est vrai, démontré par des exemples historiques. Alors, on va prendre les groupements. Aux États-Unis, par exemple, le Northern Baptist Convention, qui était les églises baptistes du nord des États-Unis, était calviniste pendant des années. Et éventuellement, c'est disparu. Il y a eu ce qu'on a appelé la Southern Baptist Convention, les églises baptistes du sud des États-Unis. La même chose leur est arrivée, quoi que j'ai lu souvent récemment, qu'il semble y avoir une progression du calvinisme. Ça revient, autrement dit. Les gens se rendent compte en étudiant que... Et ce qu'on a appelé la fameuse Downgrade Controversy, que je vous expliquais un petit peu tantôt, alors c'était les églises d'Angleterre à l'époque de Charles Spurgeon. Alors, celui-ci, Charles Spurgeon, a dû retirer son membership d'une association d'église parce que celle-ci se laissait infiltrer par des croyants notoires sans qu'elle n'intervienne. Et quand on parle d'incroyants notoires, là, c'était pas des jugements à l'emporte-pièce, là. C'était vraiment des personnes inconverties qui étaient rendues, qui dominaient dans l'association, qui dominaient aussi au niveau de l'enseignement. Alors, Charles Spurgeon a dit « Wow, c'est assez ». Après avoir averti à maintes et maintes reprises, il s'est retiré, mais ça a eu des énormes influences en Angleterre. Ça a été épouvantable. Et ce qu'on appelle la GRBC, c'est la General Association of Regular Baptist Churches. Autrement dit, en anglais, quand on dit « regular churches », ça fait toujours référence aux doctrines calvinistes. Alors, c'était une association d'églises qui était attachée au calvinisme. Ils ont officiellement, dans les années 70, ils ont officiellement, je me souviens de mon professeur qui me disait, à un moment donné, il a assisté, pour mon professeur à l'école biblique, il a assisté à la réunion où il y avait, et ça chauffait, là, parce qu'il y avait des gens qui voulaient abandonner le calvinisme, puis il y en avait d'autres qui voulaient le conserver. Il y en a un qui a fait, il a dit « Let's drop election ». Autrement dit, laissons tomber l'élection. L'élection, c'est la base. Alors, ça a été voté et graduellement, le GRBC, qui était si fort à l'époque, a commencé à diminuer et avoir beaucoup de problèmes théologiques qui se sont infiltrés dans le rang. Et on pourrait prendre aussi l'exemple, là c'est sûr, on survole, on fait vraiment un survol, l'Église presbytérienne américaine, quand vous regardez la 1646, la Westminster Confession of Faith, c'est très clair qu'il était calviniste. Maintenant, il y a eu, sur l'ensemble des presbytériens, il y a eu certains presbytériens plus conservateurs qui se sont retirés pour former une autre association parce que le même problème qu'on vient de parler, l'infiltration, professeur incroyant, etc. Alors, on voit que, historiquement, toutes ces choses-là qu'on vient de regarder, les sept marches et le problème de l'érosion, ça marche tout le temps. Et c'est sûr qu'ici, je vais juste mentionner des noms, mais si quelqu'un veut faire l'étude, association par association, voir comment ça s'est passé dans le concret. Dans le fond, ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous dire, mais c'est avec des détails, puis avec des dates, puis des noms d'hommes, etc. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire de la leçon d'aujourd'hui? J'en vois trois. Alors, la première, les doctrines de la grâce ne sont pas des nouveautés. Elles sont profondément enracinées dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Elles sont très précieuses et méritent d'être étudiées avec grande diligence, d'être conservées et transmises avec soin, et aussi d'être défendues bec et ongles, parce que notre destinée éternelle en dépend. Alors 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, ça dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, » alors c'est précieux la doctrine, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Deuxième application, sachons que la pression deviendra de plus en plus forte pour que nous abandonnions nos positions théologiques. Nous serons bien sûr accusés de tous les maux de la terre, étroitesse d'esprit, manque d'amour, intolérance, etc. Alors, il faut se rendre compte que la pression va devenir de plus en plus forte à cause de la croissance de l'écuménisme. On va être considérés comme des petits groupes, quasiment comme des sectes. Alors, il va falloir être fait fort si on veut résister à la pression. Et la troisième application, soyons plus vigilants que jamais. Les pièges sont nombreux. Et le pouvoir de séduction est puissant. Implorons le Seigneur de nous donner d'être fidèles et courageux, mais soyons aussi conscients qu'il y aura un prix à payer. Que notre grand Dieu soit béni pour sa glorieuse vérité. Amen.